Petit sondage, qu'est-ce que Noël pour vous? Il est rapporté dans un journal que, réponse à cette question, 27% ont répondu c'est la célébration de la naissance de Jésus. 24% une fête familiale. 12% un échange de cadeaux. 7% un temps pour se régaler, pour manger. 6% un temps solitaire et triste. 6% aussi, on ne célèbre pas Noël. 5% la fête du Père Noël. 5% aussi, une source de stress. 5% aussi, une chance, un jour de congé. Bizarre, ça devrait être la majorité. Et les autres, 3% sans avis. 27% la célébration de la naissance de Jésus. Qu'est-ce que Noël pour vous? Soyez les bienvenus dans ce temple. En ce jour de culte de Noël, nous sommes là pour proclamer que Jésus est né. Comme dans ces 27 personnes, ces 27% de personnes qui veulent faire autre chose qu'une simple fête où l'on mange. Pour le monde entier, Jésus est un fait historique, un début de calendrier. Mais pour ceux qui croient en son nom, il est plus qu'un simple petit enfant. Il est plus que le fils du charpentier. Il est plus que le fils de Marie. Il est le Messie annoncé. Voici comment va se dérouler notre culte de Noël. Une première partie avec un petit reportage et une question. Que représente Noël pour vous, par Simone et moi-même? Suivi d'un court moment de recueillement et puis la parole sera donnée à Daniel qui nous apportera la méditation ce matin. Et le tout sera coupé et clôturé par quelques extraits musicaux introduits par notre cher Henri qui nous a concocté 3 morceaux exceptionnels. D'habitude, Noël est une fête d'enfants, mais aujourd'hui ce serait une fête de grands enfants. Qui vous êtes? Je ne sais pas si le micro y passe bien, ça va? Que comme je dois parler plus fort. Je vous invite donc à la prière.
Bonjour à tous, si je n'ai pas vu tout le monde. Joyeux Noël. C'est un jour exceptionnel, bien sûr. Et je voudrais vous présenter 3 morceaux. Le premier, c'est un extrait de l'oratorio de Noël, écrit par Johann Sebastian Bach. Et je ne vais pas être très long, je vous rassure tout de suite. Vous savez tous qui est Jean-Sébastien Bach. C'était un luthérien, fidèle à la parole de Dieu, bien sûr, et un des plus grands compositeurs de la musique baroque, si pas le plus grand de tous les temps. Né en 1685, la même année que Handel d'ailleurs, ils ne se sont jamais rencontrés. Il mourra à 65 ans et Handel 9 ans après. Tous les deux mourront aveugles. Pour mieux situer la musique, nous sommes au temps de Louis XIV. C'est pour cette raison que sa musique est royale, bien sûr. Contrairement à beaucoup de compositeurs et d'artistes, Johann Sebastian Bach ne cherchait pas une reconnaissance humaine, ni même la gloire, ça ne l'intéressait pas, mais surtout celle de Dieu qu'il voulait. Pratiquement toute son œuvre lui est consacrée, en témoignent ses nombreux manuscrits qui se terminent tous par les initiales SDG pour Soli Deo Gloria, ce qui signifie « à Dieu seul la gloire ». Bach a écrit, en plus des 3 passions, 3 oratorios, celui de Noël, de Pâques et l'Ascension. Les versets bibliques de l'extrait que nous entendrons sont de l'évangile de Luc 2 et de Matthieu 2. Je vous cite les 6 phrases, les 6 versets. « Exultez, réjouissez-vous, debout louez ce jour, glorifiez ce que le Très-Haut a fait aujourd'hui, abandonnez le désespoir, bannissez les lamentations, chantons ensemble plein d'allégresse et de bonheur, servez le Très-Haut avec des cœurs glorieux, honorons le nom du Seigneur. »
Par un samedi de grande animation, une équipe de télévision déambule dans une galerie commerciale de notre région, bercée par des chants de Noël sortant des haut-parleurs. Apercevant des badauds pressés, le journaliste tente de poser quelques questions. « Madame, juste une petite question. Que représente Noël pour vous ?
Oh,
je sais pas. Les cadeaux ? Monsieur, que représente Noël pour vous ? Bien manger, recevoir la famille. Et toi, mon petit garçon, que représente pour toi Noël ? L'avenue du Père Noël ? Et le journaliste de s'éloigner vers d'autres personnes qui tour à tour répondent. L'ambiance, la magie de Noël, les guirlandes, la décoration, les vitrines illuminées, les villages de Noël, l'odeur du vin chaud et toutes les victuailles qui sont exposées sur les étals des commerçants. Et le journaliste désabusé de rendre l'antenne se demandant « Est-ce vraiment cela Noël ?» Je vous pose la même question. En ce Noël 2019, que représente Noël pour vous ? Si comme pour la plupart de nos contemporains, Noël n'est plus qu'une fête de famille, synonyme de bonbons, de beuveries, de cadeaux, de maisons décorées pour la circonstance. Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai le regret de vous dire que si Noël n'est vraiment que cela, vous allez passer à côté du vrai sens de Noël. Non pas que je sois contre l'aspect festif, mais l'on oublie que le personnage central que nous sommes censés fêter en cette période de l'année n'est pas le Père Noël, comme certains l'ont dit, mais Jésus, le Sauveur du monde.
Et je vous invite justement à proclamer ce Sauveur du monde en chantant le chant qui va s'afficher sur vos écrans.
D'alors étaient aussi affairés que nous tous, aussi indifférents, vaquant à leurs affaires, ne se préoccupant pas d'un événement qui allait bouleverser la vie de l'humanité. Trop occupés pour s'intéresser à ce jeune couple, dont la femme, se prénommant Marie, était enceinte. Et cette grossesse arrivait à son terme. Ils arpentaient les rues de Bethléem, cherchant un toit pour se loger et mettre au monde cet enfant. Malheureusement pour eux, il n'y avait pas de place. Tous les hôtels étaient pris d'assaut en cette période de l'année.
Voilà ce que relate l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 6. « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. »
Déjà à cette époque, l'on ne pensait pas au Sauveur qui devait naître. Sa venue avait été annoncée à plusieurs reprises par les prophètes, mais ses paroles étaient tombées dans l'oubli. Lisons quelques textes de l'Ancien Testament.
Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Le prophète Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
Il y a bien d'autres textes de la Bible qui annoncent la venue du Messie, que le peuple d'Israël attendait, mais il l'a totalement manqué. Jésus est né dans l'indifférence la plus totale. Le monde de l'époque a complètement zappé cet événement. Personne n'était au rendez-vous. Vous imaginez ce jeune couple, Joseph et Marie, trop insignifiant pour les parents du Sauveur du monde. Le Messie ne pouvait naître que dans un palais, pas dans une étable, et être de sang royal.
Et je vous invite à chanter le chant « Au peuple fidèle ».
Dû mobiliser une chorale d'anges pour célébrer cet événement d'une importance primordiale pour l'humanité. Voici ce que l'Écriture dit à ce propos.
Il y avait dans les mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. »
Dieu mobilisa ses anges qui s'adressèrent à de simples bergers, leur annonçant la bonne nouvelle, la naissance du Sauveur du monde. Et ce fut de même ainsi dans la suite. Ce Sauveur, l'envoyé de Dieu, oublié, rejeté, méprisé, méconnu, le monde n'a pas voulu de lui. Il fut même crucifié. Jean l'évangéliste dit à son sujet.
Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Eh bien oui, je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, comme encore l'on fête Noël, en ne conviant pas à cet événement l'acteur principal, Jésus le Fils de Dieu, l'oubliant volontairement comme lors de sa naissance. Jésus est venu dans ce monde pour le racheter du péché. Telle était sa mission première. Ceux qui l'ont reconnu comme sauveur sont devenus des rachetés de Dieu, des hommes et des femmes libérés du péché, parce qu'ils ont cru en sa venue et en son sacrifice sur la croix. Je ne veux pas paraître rabat-joie, je ne désire pas gâcher cette belle fête qu'est Noël. Je désire vous faire réfléchir que fêter l'anniversaire d'un ami sans inviter cet ami, cela n'a pas de sens. C'est ainsi, si nous fêtons l'anniversaire du Sauveur du monde sans l'avoir à notre table, cela non plus n'a pas de sens. Si la même équipe de télévision vous reposerait cette question, et pour vous, que représente Noël? Que répondriez-vous?
Et pour vous, que représente Noël?
Nous voici donc à un second extrait. C'est d'Hector Berlioz. Hector Berlioz, compositeur français, né en 1803. Et il écrit d'une manière ironique ce rapport avec la religion catholique. Je cite « Je n'ai pas besoin de dire que je fus élevé dans la foi catholique, apostolique et romaine. Cette religion charmante, depuis qu'elle ne brûle plus personne, a fait mon bonheur pendant 7 années entières. Et bien que nous soyons brouillés ensemble depuis longtemps, j'en ai toujours conservé un souvenir fort tendre. » Hector Berlioz résume fort bien la différence qu'il y a à suivre une religion plutôt que de suivre Jésus, qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, et qui ne déçoit jamais personne. Cette tendresse, on va la retrouver dans toute l'œuvre intitulée « L'enfance du Christ ». Et tout spécialement dans ce court extrait que vous allez voir, qui date de 1854 et composé à l'âge de 51 ans. L'extrait que nous allons découvrir est la seconde partie de l'œuvre qui en comporte trois. Réunis dans l'étable, les bergers disent adieu à la sainte famille, dont le périple va commencer vers l'Égypte. C'est une composition d'une grande douceur, pleine d'amour et de respect. Ils vont quitter Bethléem pour se réfugier en Égypte et les bergers lui disent adieu. Le texte résume en 4 formes de politesse. L'amour, la puissance divine, sa générosité de cœur et enfin les bénédictions. Je vais vous donner une explication des 4 textes qui seront chantés et qui seront sous-titrés. Première phrase. Comme ils s'en vont loin de la terre où dans l'étable il vit le jour, de son père et de sa mère qu'il reste le constant amour. L'amour ici semble pour les bergers prendre une place prédominante. L'amour est en Christ, et Christ est amour. Il nous aime tel que nous sommes, jusqu'à mourir à la croix pour moi comme pour toi. Deuxième phrase. Ensuite, qu'il grandisse et qu'il prospère et qu'il soit bon père à son tour. Le mot père ici est inspiré du texte d'Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les bergers rendent ainsi hommage à sa puissance divine. Troisième extrait, troisième phrase. Onque, vous allez voir comment ça s'écrit, onque chez l'idolâtre, il vient à sentir le malheur, fuyant la terre marâtre, chez nous qu'il revienne au bonheur, et que la pauvreté du pâtre et reste toujours chère à son cœur. Ah, c'est extrêmement clair. Bon, je vais traduire. Onque, ce qui veut dire si jamais à un moment donné, oui, je me suis bien trouvé. Donc, si jamais à un moment donné, chez le mécréant, il vient à sentir le malheur, fouillant la terre marâtre, c'est-à-dire une terre remplie de séismes, de cataclysmes, de pluies torrentielles et de catastrophes, c'est ça une terre marâtre, qu'il revienne chez nous, donc chez le berger, vers le bonheur des bergers, et que la pauvreté de ceux-ci lui reste toujours chère à son cœur. Moi, je trouve ça sublime. Voilà une phrase lourde de sens. Ici, les bergers lui reconnaissent sa pauvreté terrestre et le bonheur d'être avec les gens simples, de cœur et de générosité. Lui qui allait devenir le bon berger. Et enfin, quatrièmement, les bénédictions. Cher enfant, que Dieu te bénisse, ainsi que les heureux époux, que jamais de l'injustice vous ne puissiez sentir les coups, qu'un bon ange vous avertisse des dangers planant sur vous. Ben, les pauvres bergers sont loin de se douter de ce qui attend Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Quatre formules d'adieu, l'amour, la puissance divine, la générosité et la bénédiction. Voilà donc un beau message pour moi, d'espoir construit sur une mélodie qui est simple, qui s'oppose à la puissance orchestrale habituelle de Berlioz, avec comme seul instrument musical deux hautbois, deux clarinettes, deux violons, alto et violoncelle et contrebasse. Berlioz, pourtant brouillé avec sa religion, envoie vers nous un message clair et nous invite à nous tourner vers Jésus. C'est presque une prière, un cantique tellement la mélodie est facile. On aura envie de chanter avec. Pour moi, c'est vraiment un moment de bonheur musical et d'émotion. Cet hommage de 4 minutes, rempli de tendresse et d'amour, nous invite à nous tourner vers ce Jésus que beaucoup aujourd'hui ne font plus confiance et veulent ignorer et oublier.
Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, toi qui t'abaisses jusqu'aux humbles pour te communiquer à eux, toi qui te plais à leur révéler tes secrets, apprends-nous l'humilité, afin que nous puissions participer avec ceux qui se prosternent devant l'enfant de la crèche à la véritable joie de Noël. Livre-nous de tout orgueil, de toute science présomptueuse. Donne-nous des cœurs d'enfants pour croire, pour chanter, pour adorer. Et à ceux-là que l'inquiétude ou le doute peuvent avoir un moment écarté de toi, rends à cette heure avec leur foi d'enfant, leur joie d'enfant. Au nom de celui qui naquit dans une étable et dont l'avenue fut annoncée par les anges à d'humbles bergers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter le chant « Il est né, le divin enfant ». Et pendant ce temps, je demanderai à Jean-Marie de passer pour l'offrande. Jésus, un nom qu'on n'entend plus de nos jours, Une seule fois, j'ai entendu hier à la radio, parce qu'il expliquait que quelqu'un avait fait un tableau magnifique avec Joseph, Marie et Jésus. C'est la seule fois où, durant cette dernière semaine, j'ai entendu son nom. Mais pour nous, ce nom seul est digne d'être loué, parce que c'est le nom de notre Sauveur, de mon Seigneur, du seul Fils unique de Dieu. Bien que nous soyons par adoption ses fils, lui seul était le vrai, le seul Fils unique venu pour nous, Créateur du Père Créateur. Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père éternel, nous voulons nous tourner maintenant encore une fois vers toi, vers ce que tu nous as laissé, ce qui a traversé les siècles, cette parole, cette Bible. Seigneur, vraiment, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles de notre cœur et fais taire les bruits du dehors. Nous avons encore une fois besoin de t'entendre, d'entendre ta voix, d'entendre ton message. Merci de mettre ta main sur Daniel et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.